Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine au nom de notre commandant de bord qui, ce soir, François Garde, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux autour de Turin, Sydney, Nouméa, Reykjavik et les îles Kerguelen. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce, jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher à ajuster votre imagination, redresser votre curiosité et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à écouter de la musique dans l'un des cadres les plus grandioses, si ce n'est le plus grandiose du monde. La dièse un gentleman, welcome en boire, my name is Alex. Voyage en moi majeur, ravi ce soir de recevoir François Garde, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous aviez l'air tout à fait étonné quand je vous ai parlé de ce site grandiose, mais c'est vous-même qui avez parlé de ce site pour parler des îles Kerguelen, je vous cite. Je profite de cet instant de solitude pour chanter, n'ayant pas osé jusque-là imposer à mes compagnons mon répertoire de mélodies d'opéra français du 19e siècle. Donc vous avez chanté ça dans le cadre le plus grandiose du monde, c'est-à-dire les îles Kerguelen. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette...
Oui, dans une vallée perdue à 4 jours de marche de la base, avec un assez gros sac sur le dos, et pour lutter contre la fatigue et pour que la marche se fasse dans un bon rythme, eh bien, assez spontanément, je dois dire, me viennent effectivement des mélodies de Gounod ou des grands airs d'opéra. Alors, j'ai une voix de baryton basse, j'ai fait un peu de chant choral, mais voilà, vaut mieux que je chante pas à la radio, quoi.
Chacun son truc. Décrivez un peu ce qu'il y avait dans ce cadre si spécial. C'était comment ?
Un ciel immense, la mer au loin en bas grise qui moutonne, un vent qui ne s'arrête quasiment jamais, pas d'arbres. Et puis donc une rivière en fond de vallée et puis des bords de vallée assez arrondis avec tantôt des éboulis et tantôt des marécages. Enfin, voire des éboulis dans des marécages, qui est une configuration originale qu'on rencontre à Kerguelen. Et ça dure comme ça pendant des heures et des heures. Et puis vous passez un col et vous allez sur une autre vallée.
Ce n'est pas étonnant quand on voit la volupté avec laquelle vous parlez de savoir donc de rappeler que vous avez obtenu en 2012 le prix Goncourt du premier roman pour Ce qu'il advint du sauvage blanc. Vous avez sorti pour Trois couronnes aussi chez Gallimard. Vous avez eu d'autres fonctions, administrateur des terres australes et antarctiques françaises, poste que vous avez occupé de 2000 à 2005.
Voilà, donc j'étais le représentant de l'État pour les îles australes, donc Crozet, Kerguelen, Amsterdam et puis l'Antarctique, la Terre Adélie. Et c'est dans ce contexte qu'à titre professionnel, j'ai exercé mes responsabilités, non seulement sur les bases, mais y compris dans les vallées lointaines.
Alors, nous allons parcourir le monde et ce n'est pas une surprise. Donc, si vous avez déjà piloté notre avion jusqu'à l'autre bout du monde, parce que nous sommes à Nouméa, votre toute première escale.
Thank you.
C'était la première partie du Requiem de Bruckner, là par les Corydon Singers, The English Chamber Orchestra, sous la direction de Matthew Best. François Garde, pour parler de Numéro, vous avez chanté vous-même première partie.
J'ai choisi cette œuvre de jeunesse de Bruckner parce que j'ai eu l'occasion de chanter ma modeste partie dans le rang des basses dans un chœur à Nouméa. Nous avions travaillé cette partition pendant une année. Et puis aussi parce que cette œuvre elle est belle, elle est austère, elle fait réfléchir et en cela, elle est comme la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas un territoire accueillant, aguicheur, qui est un territoire austère et dur. Et donc, le côté sombre du Requiem de Bruckner convient
vous
tout à fait.
Vous êtes beaucoup dans les Requiem, parce qu'il y a aussi le Requiem de Forêt dans votre livre Pour trois couronnes.
Oui, oui, il y a une allusion au Requiem de Forêt, au Liberami du Requiem de Forêt pour produire un certain effet à un certain moment.
Alors, Nouméa, pourquoi vous dites que c'est... Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que c'était un peu
dur, aride. Un peu austère. Oui, c'est la Nouvelle-Calédonie que j'aime beaucoup, où j'ai passé une partie de ma carrière et dont je me suis occupé, si je puis dire, à plusieurs reprises. C'est une terre rude, où les rapports humains ne sont pas toujours faciles. Et où se jouent, où se sont joués, où se jouent encore des enjeux très importants. Donc, c'est pas du tout des enjeux de développement économique, de rééquilibrage social et puis de paix civile entre les communautés. Donc, c'est pas du tout l'image carte postale, cocotier, lagon, etc. Il y a cette réalité-là, bien sûr, mais en profondeur, il y a une terre austère, rude et infiniment belle. Donc, comme le Requiem de Bruckner.
Vous avez parlé des rapports entre les gens, c'est pas évident, pourquoi ? Parce que ce sont des différentes ethnies.
Oui, parce qu'il y a différentes communautés. La Nouvelle-Calédonie a connu des périodes de grand désordre dans les années 80. Ce temps est heureusement révolu. Il y a eu des accords entre les communautés qui ont été signés en 88 et à nouveau en 98. Et maintenant, la Nouvelle-Calédonie, on n'en parle plus dans les médias, ce qui est la preuve qu'on est revenu à une régulation sociale normale, mais pour autant... Les problèmes entre les différentes communautés ne sont pas, enfin, sont toujours d'actualité.
Quel était votre travail exactement ? Parce que vous représentiez l'État français. Alors, ça voulait dire quoi ?
J'étais d'abord, dans ma première affectation en Nouvelle-Calédonie, j'y étais comme secrétaire général adjoint du gouvernement, c'est-à-dire le numéro 3 dans la représentation locale de l'État. Et puis en 98, j'étais au cabinet du ministre de l'Outre-mer en charge des négociations sur la Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais le conseiller juridique dans l'équipe. Et puis j'y suis retourné également en 2008-2009 comme secrétaire général du gouvernement.
Et décrivez-nous un peu les paysages de ce bout du monde, parce que moi je ne le connais pas du tout.
La Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est assez grande, hein, ça doit faire à peu près 500 km de long sur 80 km de large, entourée par un immense lagon, le plus grand lagon du monde. Donc il y a des paysages sublimes sur la mer, des montagnes qui sont avec des plantes qu'on ne connaît pas ici, donc qui sont très... très étonnante, qui compose des forêts qui ont une allure particulière. Et le sol est très riche en nickel. C'est le troisième ou quatrième endroit au monde pour la production de nickel. Et cette île est peuplée par un peuple premier, les Kanaks, et puis sont arrivés au cours de l'histoire d'autres ethnies. Il y a bien sûr des Français devenus de métropole, mais aussi des Wallisiens, des Polynésiens, des Javanais, des Japonais, des Kabyles. Et tout cela fait un mélange qui n'a pas toujours été très harmonieux. En plus, il y a eu la violence du bagne pour une partie des Français, il y a eu la violence du code de l'indigénat pour les Kanaks. L'histoire est douloureuse en Nouvelle-Calédonie.
Qu'est-ce qui reste de la France là-bas ? Quelle est l'importation française là-bas ?
La France a apporté la Bible, puisque tous les Kanaks sont soit catholiques, soit protestants. Et ça, c'est pas remis en question. La France a apporté la langue française, qui est la seule langue de communication entre les différents Kanaks, puisqu'ils parlent 17 langues différentes. Donc le français est leur langue de communication. Et puis la France a apporté le développement, bien entendu. Les routes, les dispensaires. On est dans la modernité. Quand on est à Nouméa, on pourrait se croire à Nice, mais du point de vue de la douceur de vivre. Mais l'arrière-pays, c'est pas l'arrière-pays niçois.
Alors vous avez choisi un chant traditionnel Kanak.
Pour faire entendre, alors après Bruckner, qui est un clin d'œil un peu personnel pour faire penser à la Nouvelle-Calédonie, pour bien qu'on comprenne de quoi il est question, un chant kanak, puisqu'il y a une tradition du chant choral chez les kanaks, qui est quelque chose parfois d'assez bouleversant. J'ai eu le privilège d'assister le ministre de l'Outre-mer quand il est allé à Ouvéa, et après les événements, après la mort de Tshibaou, et là, la chorale de l'église entame un chant de deuil, et je comprenais pas les paroles, et je reconnais la musique, et c'était la musique, c'était celle du God Save the Queen, parce que un pasteur à l'époque avait, pour leur donner un chant, mis des paroles en langue kanak, et puis rajouté une musique qu'il avait avec lui, c'était le God Save the Queen, mais donc avec des paroles de deuil en langue d'Ouvéa. C'est un moment assez extraordinaire.
Là, c'est donc un hymne, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, ça vient d'un CD qui s'appelle Danse et musique kanak, avec des artistes malheureusement anonymes.
C'est probablement le cœur d'un temple, et c'est un hymne religieux. Enfin, je ne comprends pas les paroles, mais c'est un hymne religieux parce qu'il y a une tradition donc, du chant choral féminin avec un meneur de jeu, et puis les autres femmes répondent, et ça peut durer comme ça pendant un certain temps. Et c'est des musiques qui sont très émouvantes, et tous ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie frissonnent en entendant ça.
Alors François, quand vous avez répondu à notre question, donc la personne étonnante rencontrée ailleurs ou dans un train, un avion, c'est le pasteur d'Ouvéa.
Voilà, c'était la même journée avec, avec le ministre lorsque nous sommes allés au nord d'Ouvéa, là où il y avait eu l'affaire de la grotte, et là où il y avait eu ensuite l'assassinat de Jean-Marie Tshibaou et des Yéwéné. Et le pasteur de la tribu nous a fait un discours que je suis incapable de vous résumer ou même de dire de quoi ça parlait, mais je me souviens que toute la délégation, on était tous en larmes à la fin du discours. C'est vraiment un moment extraordinaire. Et il parlait justement de la paix civile et de la concorde des âmes. Et alors c'est un vocabulaire religieux, et nous étions là en tant que représentants de la République, donc il pourrait y avoir une discordance. Et en fait, c'était tellement beau qu'on était tous extrêmement émus, et c'est vraiment un souvenir très fort.
Restons dans le même coin du monde, en tout cas, parce que le repas le plus étonnant au cours de vos voyages, c'était le mutton bird en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est un mutton bird?
Ah oui,
un oiseau mouton.
C'est un oiseau. Alors, c'est en Nouvelle-Zélande effectivement que j'ai fait ce repas dans un restaurant. Ça figurait à la carte, mutton bird. Et donc, je demande au serveur qu'est-ce que c'est. Et il me dit, vous n'aimerez pas, c'est pas bon. Alors, je dis, attendez, première fois dans un restaurant qu'on me dit qu'un plat n'est pas bon. Je veux manger du mutton bird. Et donc, ma femme et mes amis ont pris autre chose, et on m'amène une cuisse. La viande était totalement noire, mais y compris à l'intérieur. La peau était noire, et quand vous coupiez, la chair était marron foncé. Et ça avait un goût extrêmement fort. Servi sur une choucroute, à côté, la choucroute paraissait fade.
La choucroute?
Oui, c'est voilà. Et avec du bon vin néo-zélandais, c'était vraiment extrêmement dur à manger. Et en plus, ça a été terrible à digérer. Il m'a fallu 24 heures pour... j'avais une espèce de goût huileux dans la bouche. Je pense que c'est un oiseau qui doit vivre sur les moutons, d'où son nom. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le pire repas. En tout cas, c'était très étrange.
Quand vous travaillez dans cette partie du monde, les voyages sont énormes. Vous passez énormément de temps, j'imagine, dans les avions, parce que d'aller d'une escale à l'autre. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans l'avion ?
En avion, j'écris, j'écoute de la musique. J'aime bien l'avion ou le train, mais en particulier l'avion, parce qu'on est hors du temps, on est en l'air, comme là en ce moment, dans l'avion que nous copilotons. On perd tout sens de la réalité des distances. Il faut par exemple rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que la France dans le Pacifique est présente à Papeete et à Nouméa. Mais Papeete et Nouméa, c'est à peu près la distance entre, je ne sais pas moi, Lisbonne et New Delhi. Enfin, c'est 8 ou 10 heures d'avion. Donc on a l'impression que, vu d'ici, que c'est à côté. Non, c'est extrêmement loin. C'est pas pour rien qu'on appelle le Pacifique le Grand Océan. Donc, et quand on va de Nouméa à Paris, c'est à peu près 24 heures de vol. Donc vous arrivez, avec 10 heures de décalage horaire, vous arrivez, vous êtes bien fracassé. Mais en même temps, moi j'aime bien ce moment où vous êtes complètement détendu, coupé de tout, hein, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Et la meilleure manière d'utiliser ce temps, c'est d'écrire des romans.
Alors, vous avez eu votre prix pour votre premier roman l'année dernière. Pourquoi vous avez seulement commencé à écrire des romans à ce moment-là ?
J'ai écrit aussi des textes hors du domaine de la fiction. J'avais écrit avant une biographie de Paul-Émile Victor, toujours les voyages. Mais je pense que pour écrire, pour oser passer au roman, il faut peut-être une certaine forme de maturité. Donc j'assouvissais mon désir d'écriture en écrivant des articles juridiques ou des contributions à des colloques. Mais enfin, c'est plus formaté, on va dire. Et le roman, il faut oser. Il faut une certaine dose d'impudeur ou d'indécence pour penser que la petite histoire que vous avez envie de raconter va intéresser quelqu'un d'autre que vous.
Ce qui advint du Sauvage Blanc, votre premier roman, c'est parti d'un fait divers au 19e siècle, assez particulier quand même. Pourquoi vous avez eu cette idée?
C'est une histoire vraie sur laquelle je me suis contenté de mettre mes mots. Une histoire que d'ailleurs qui m'a été racontée ou dont j'ai entendu parler à Nouméa, celle d'un marin français qui avait été oublié sur une côte australienne au milieu du 19e siècle. On l'a retrouvé 17 ans plus tard, et quand on l'a retrouvé, il avait oublié sa langue et il avait oublié son nom.
Donc, c'est tout ce qu'il disait au départ, c'était son nom, pour pas oublier son identité.
Mais c'est une hypothèse du romancier. Donc j'étais fasciné, je suis toujours fasciné par cette histoire. Comment peut-on en être amené à perdre sa langue? C'est pas pour rien qu'on l'appelle sa langue maternelle. Alors on peut être dans deux cultures à la fois, vous en êtes un exemple, mon cher Alex, mais comment peut-être complètement, à l'âge adulte, complètement oublier cette chose si essentielle de son identité qu'est la langue. Je sais toujours pas, il m'a fallu écrire un roman pour tourner autour de cette idée et essayer de raconter cette histoire.
Vous dites que le luxe dans le voyage, c'est de pouvoir parler la langue du pays. Vous avez appris des langues quand vous étiez des mots ou des expressions?
Oui, enfin, il y a quelques expressions qui peuvent me revenir comme ça, mais à Nouméa, on parle français, alors un français parfois un peu différent. Il y a quelques expressions astiquer, ça veut dire casser la figure à quelqu'un, par exemple, ou il y a une expression du français calédonien, c'est bleu de gens, ça veut dire c'est bourré de gens, il y a beaucoup de gens, ou c'est la mer est bleue de poissons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons. Voilà, des expressions comme ça, mais sinon, non, je parle un peu l'anglais, un peu l'italien, comme tout le monde, si je puis dire, mais hélas, je ne suis pas mon père parle une dizaine de langues, il est linguiste de profession, et moi, malheureusement, je suis beaucoup moins doué.
Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez écrire, parce qu'on savoure un peu votre langage dans vos romans?
Oui, j'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai toujours écrit des trucs que je laissais dans un tiroir. Et puis voilà, je suis passé à l'acte.
Alors pour Trois Couronnes, aux éditions Gallimard, j'ai sorti un extrait que je voudrais que vous lisez. Mais ce sera dans quelques instants, après notre escale suivante, c'est Reykjavik.
Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Thank you. sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen?
Der Leiermann, c'est le dernier chant du voyage d'hiver de Franz Schubert. Là, c'était chanté par Thomas Quasthoff. C'est pour parler de Reykjavik. François Garde, quel est le rapport exactement?
C'est l'hiver, bien sûr.
D'accord.
C'est l'hiver.
Il fait froid.
L'Islande, il ne fait pas, ce n'est pas que l'hiver en Islande, mais c'est pour évoquer ces terres froides que j'aime beaucoup. Terres froides, pour moi, c'est des terres sans arbres. Donc ça peut être les Alpes au-dessus de 2500 mètres, c'est l'Islande, c'est le Groenland, ça peut être les Rocheuses canadiennes, c'est les îles Kerguelen. Ce sont des endroits où j'ai adoré marcher et où l'absence d'arbres, j'ai rien contre les arbres, l'absence également de construction d'objets faits par l'homme, pas de poteaux télégraphiques, pas de maisons, pas de sentiers, fait que vous perdez tous vos repères et que vous marchez dans un univers qui semble se déformer sous vos pas. Et c'est une sensation tout à fait extraordinaire. Donc, le vielleux de Schubert, c'est le voyage d'hiver, donc Reykjavik, voilà pourquoi.
Alors, vous avez mentionné aussi les îles Kerguelen. D'ailleurs, nous offrons plusieurs exemplaires de longs cours, si vous voulez en obtenir, où il y a un article de François Garde sur les îles Kerguelen. Vous pouvez écrire à notre site francemusique.fr. Vous pouvez même nous adresser à l'attention de Maud Nourry un courrier. Si une telle chose est toujours transportée par la poste, j'imagine que ça existe toujours. Vous pouvez nous l'envoyer par courrier, donc à Radio France 116, avenue du Président Kennedy, 75 016, à Paris, donc dans le 16e arrondissement, pour avoir quelques exemples de longs cours, notre partenaire pour cette émission. Et là, dans le dernier long cours, il y a donc votre article sur les îles Kerguelen. Je vais vous demander tout de suite, pour vous nous camper un peu l'ambiance de ces îles, de nous lire un petit extrait pour qu'on y soit, tout simplement.
Cet article raconte tout simplement une journée de randonnée à Kerguelen avec les galères habituelles qui...
Les galères sont énormes. Moi, j'ai lu, ça n'a l'air pas triste du tout.
Non, c'est très rigolo. Qui font le quotidien du marcheur, du randonneur là-bas. Le silence particulier de l'archipel, ce silence où le vent ne cesse de respirer et de gémir. Le glacier Ampère, l'une des langues qui coule de l'énorme calotte glaciaire du Cook. Des montagnes brunes formant un piémont déchiqueté. Plus haut, les nuages, le ciel gris, les glaces se confondant. Au loin, la baie de la Table, ardoise froissée. Aucun animal, à peine quelques mousses blottissent ça et là contre un rocher. Ce paysage vide n'est habité que par le vent, sa présence, son empire. Il nous accompagne, nous gifle, nous gronde, se cache, revient, amène la pluie, sèche nos vêtements, change de sens, fait résonner une longue note ténue en caressant les falaises de basalte. Virevolte, miaule, s'amuse à prendre à revers une cascade qui tombe du plateau et à la renvoyer en éventail, se perdre dans le ciel, boxe qui croit s'être habitué à son souffle et parfois jette à terre l'imprudent mal campé sur ses deux jambes.
Quelle idée d'aller là-bas ?
Ben, c'était mon métier, mais c'est la beauté des paysages, c'est l'aventure, hein, l'aventure qui fait que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Les cartes sont sinon fausses, pas tout à fait exactes. Les renseignements météo sont inexistants. Il n'y a pas de sentier.
Mais c'est une base scientifique.
L'île de Kerguelen, c'est grand comme la Corse. Hein, c'est donc pas anodin. Et il y a une base, effectivement, un seul endroit habité, et puis quelques cabanes disséminées pour la recherche scientifique sur toute l'île. Et donc, l'un des grands plaisirs de la vie là-bas, c'est d'aller randonner 2, 3, 4, 5 jours de cabane en cabane. Donc, on ne porte pas sa tente, on économise quand même sur le poids. Et comme il n'y a pas de sentier, eh bien, on passe où on veut, on fait des variantes. On a parfois l'impression qu'on est, si on s'est un peu trompé et qu'on est parti un peu ailleurs, qu'on est les premiers hommes à mettre nos bottes à l'endroit où on marche.
Mais c'est assez dangereux parce que vous traversez un moment un fleuve.
On traverse les rivières à gué, il n'y a pas de pont.
Bah oui, mais il fait tellement froid. Et que...
L'eau est à 2 degrés, donc on traîne.
Mais l'un de vos compagnons, c'est pas évident.
Il s'est jeté à l'eau pour récupérer sa sandale. Il s'est jeté à l'eau volontairement. Donc, tout ça se fait dans des conditions de sécurité acceptables. Effectivement, si on veut jamais prendre le moindre risque, il faut surtout pas quitter son appartement. Enfin, là, dans la nature, il n'y a pas d'animaux sauvages. Il n'y a pas de plantes toxiques, il n'y a pas de terroristes, puisqu'il n'y a pas d'habitants. Enfin, donc on peut marcher en étant juste dans la joie du plaisir physique.
Vous écoutez Voyage au Mois Majeur avec François Garde, notre commandant de bord, ce dimanche soir. Là, c'était Tifleur Fané, qui est une chanson traditionnelle réunionnaise, pour parler de Saint-Pierre de la Réunion. C'est plus ou moins l'hymne local.
C'est quasiment une sorte d'hymne des Réunionnais. Et je tenais beaucoup à évoquer Saint-Pierre de la Réunion, puisqu'on était au Kerguelen tout à l'heure.
Et c'est le point de départ pour y
aller. Le bateau part de la Réunion, donc l'administration des terres australes est à la Réunion. Donc nous avons habité la Réunion pendant 5 ans. Et au-delà du... où j'ai fait là aussi de nombreuses randonnées dans les cirques, ceux qui connaissent la Réunion me comprennent. Et au-delà du plaisir de saluer la Réunion, j'étais à Nouméa, nous étions à Nouméa tout à l'heure, nous sommes à la Réunion. Je tenais à évoquer cela parce que l'outre-mer est quelque chose d'important pour la France et c'est important dans ma carrière et dans mon histoire personnelle, mais les Français connaissent mal l'outre-mer ou connaissent mal les outre-mer, et les Français n'aiment pas ou aiment mal l'outre-mer ou l'aiment pour des mauvaises raisons. Et c'est tellement une dimension de la France essentielle.
Mais attendez,
essentielle.
Je vois les mauvaises raisons, c'est-à-dire ?
Oh ben quand on vous parlez à Monsieur Tout le Monde d'Outre-mer, il va vous répondre, j'ai été en vacances, il y a telle vedette dans une équipe de foot, il y a des cyclones et parfois des émeutes populaires. Tout cela est vrai, mais tout cela est superficiel.
Et quelles sont les bonnes raisons alors ?
Les bonnes raisons, c'est qu'avec l'Outre-mer, la France est présente dans le Pacifique, la France est présente dans l'océan Indien, la France est présente dans l'océan Atlantique. Elle participe au concert des nations dans tous ces océans. Elle est une puissance locale dans tous ces endroits tellement importants. Et les populations qui sont dans ces îles apportent à la France beaucoup plus que des joueurs de football ou des... encore que c'est très utile, ou que des chanteurs de variété. Il y a vraiment une énergie, une jeunesse bien formée, des points d'appui pour notre économie. Enfin, c'est des atouts formidables. L'Outre-mer, on le dit jamais assez, ou on le dit jamais tout court. Donc, je profite d'avoir le micro pour saluer les Outre-mer de la République.
C'est un ressortissant d'un autre pays qui a des petits bouts d'influence encore éparpillés dans le monde qui vous pose la question. Un peu par provocation, mais est-ce que c'est toujours de nos jours que ces anciennes gloires que nous sommes, la Grande-Bretagne, la France, que nous ayons toujours ces influences loin de chez nous? Je parle de la Grande-Bretagne, par exemple, avec les Malouines. C'est un très bon exemple. Il y a beaucoup de controverses, même en Grande-Bretagne et surtout en Argentine, évidemment. Mais vous aussi, en France, est-ce qu'il y a toujours des raisons? Est-ce que ce sont des reliques d'une autre époque?
C'est le fruit de l'histoire, bien sûr, mais... vous savez, moi j'habite en Haute-Savoie et j'aime bien rappeler que Nouméa est devenu français en 1853 et Chambéry, Annecy et Nice ne sont devenus français qu'en 1860. Quand je vais à Nouméa et que je dis à des Kanaks, vous êtes français avant moi, ils me regardent avec des grands yeux. On ira tout à l'heure à Turin, qui était la capitale politique du royaume de Savoie jusqu'en 1860.
Oui, mais il y a tout de même des réalités géographiques.
Je vous le concède. Mais justement, la géographie ne commande pas tout. Il y a aussi la projection, il y a aussi l'histoire qu'il faut assumer dans toutes ses dimensions. Et puis, il y a l'attachement de ces populations à la France. D'autant plus que, en tout cas pour les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, ils vivent en permanence. Il y a beaucoup d'originaires de ces îles notamment en région parisienne, et le flux d'aller-retour est vraiment extrêmement
Donc l'attachement, constant. Ce sont des relations personnelles.
Oui, il y a des étudiants, il y a des gens qui viennent travailler.
Des valeurs, l'histoire, la langue.
La République, tout simplement, et ça compte. Et ça compte. On ne parle toujours de l'outre-mer que pour des mauvaises raisons, hein, des cyclones ou des joueurs de foot. C'est beaucoup plus que ça. C'est alors faudrait que je fasse l'addition, mais enfin on est à peu près à 2 millions d'habitants quand même. Ça n'est pas rien. Et on est sur une population extrêmement jeune, dynamique et avec vraiment des atouts que la France de métropole, qui parfois un petit peu nombriliste. Qui a peur de tout, eh bien, outre-mer, il se passe des tas de choses intéressantes, il y a des développements, il y a des projets, et c'est assez fantastique. C'est une leçon de dynamisme que j'ai particulièrement ressentie en Nouvelle-Calédonie et en Guyane.
Alors, François Garde, vous faites des loopings assez étonnants avec notre avion, parce que nous survolons en ce moment même Turin. Veni Sancte Spiritus, Mozart, c'était par le Collegium Instrumentale Brugense, la Capella Brugensis, sous la direction de Patrick Peyer. Pourquoi Mozart pour parler de Turin? J'ai dit que votre escale que vous avez choisie après François Garde, c'est Turin et Mozart.
Alors d'abord, pourquoi Turin? Quand vous demandez 5 escales, je me suis longuement demandé si escale voulait dire escale par bateau, qui est mon tropisme naturel, si vous avez bien lu mes romans. Et donc, je me suis quand même autorisé une escale qu'on ne peut faire qu'en avion, hein, parce que Turin n'est pas au bord de la mer. Pourquoi Turin ? Je voulais une ville d'Italie, parce que simplement, l'Italie, c'est un pays que j'adore, comme tout le monde, c'est très banal, mais voilà. Alors, j'aurais pu prendre Florence, Venise, Rome, Naples, enfin bon. Et puis, j'ai choisi Turin parce que c'est peut-être...
C'est pas le choix le plus attendu.
Oui, c'est ça.
Attendu,
j'ai voulu être un peu plus à contre-pied. Turin qui est... que je vois quasiment de ma fenêtre, enfin, s'il n'y a pas le Mont Blanc entre la Haute-Savoie et le Piémont. Donc Turin, c'est la capitale historique, ou l'une des deux capitales historiques de la Savoie, avec Chambéry. C'est une ville étonnante, une ville du XVIIIe siècle, construite par la volonté d'un roi. Et donc, pour illustrer à la fois l'Italie et cette ville au pied des Alpes, eh bien, Mozart, qui a fait le voyage d'Italie quand il était jeune, c'est une œuvre de jeunesse de Mozart que nous venons d'entendre, une œuvre un peu archaïsante, si je puis dire, dans la production de Mozart. Et donc, ça permettait d'évoquer l'Italie à laquelle je suis si attaché.
Il y a une tristesse quand même dans ces villes italiennes, dans les Alpes, dans mon Dorsola, Turin par exemple. Moi, à chaque fois que je faisais à Turin, il pleuvait, c'est peut-être pour ça. Avec tous ces immeubles, c'est pour ça que, quand vous avez parlé de l'Italie, que vous avez choisi Turin. Sinon, il y a d'autres liens qui vous rendent cette ville si chère.
Je suis heureux dès que j'arrive en Italie, même en Vallée d'Aoste où on parle français, mais alors fortiori. Une fois qu'on entre en Piémont et que j'entends l'italien,
et vous répondez...
le café est bon.
Oui, enfin, voilà, café, vous sentez-vous à la maison en Italie pour le café, vous répondez.
Oui, c'est ça, je me sens vraiment, c'est, je crois que c'est le seul autre pays au monde où j'aurais pu habiter, c'est l'Italie, et c'est beau partout, donc c'est extrêmement difficile de choisir une escale. Toutes les villes italiennes sont fascinantes, et il y a partout des endroits incroyables, les gens sont gentils, les filles sont belles, enfin voilà, quoi, c'est un pays extraordinaire l'Italie, donc il fallait choisir une ville, et donc mon petit clin d'œil aux Alpes, c'est Turin.
Et Mozart ?
Et Mozart, parce que je ne pouvais quand même pas faire une programmation sans mettre un peu de Mozart. Il y a cette jolie blague que j'avais entendue, je crois, sur votre antenne, que je ne sais pas de qui c'est. La blague, c'est quoi ? C'est lorsque les anges jouent pour Dieu, ils lui jouent du Bach, mais quand ils s'amusent entre eux, ils jouent du Mozart.
Et vous écoutez à notre antenne pendant que vous écrivez, apparemment, pendant que vous avez écrit pour Trois Couronnes, aviez France Musique marcher en permanence.
Lorsque j'écris, je suis seul à la maison, et quand je suis seul à la maison, je mets France Musique. Et donc, effectivement, mes deux romans ont été écrits avec France Musique, et c'est assez curieux parce que donc je connais assez bien la programmation. Et par exemple, je commence à écrire un paragraphe, et on va dire qu'il y a, je ne sais pas moi, un concerto de Mozart. Et puis j'écris le paragraphe, et à la fin du paragraphe, eh bien, on est passé à un quatuor de Haydn, mais je n'ai pas entendu la désannonce, et je ne me suis même pas aperçu qu'on avait changé de compositeur.
Quelle est l'interférence, si c'est le mot exact, entre la musique et ce que vous écrivez ? Parce que ça vous influence quand même. Si vous écoutez ça, forcément, ça vous apporte quelque chose, des émotions ou une structure. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Je dirais que ça apporte une facilité pour décoller l'imaginaire, pour partir dans une histoire. C'est un sas vers l'imaginaire, et puis aussi peut-être ça conforte mon goût pour la musicalité des phrases et des mots. Je suis assez attentif au style, et ben voilà, donc
ça s'entend quand vous parlez, même parce que vous savourez les mots en même temps que vous les prononcez.
C'est comme dans la musique, une fausse note, ça marche pas. Et bien quand on écrit un texte, s'il y a un mot qui est au mauvais endroit, ça fait exactement comme un canard au milieu d'une symphonie.
Alors, votre questionnaire, en revanche, précise la musique que vous écoutez pendant le trajet, Bach, Bach et encore Bach.
Oui, parce que Jean-Sébastien Bach, et ma foi, il y a dedans, il y a tout, enfin, pardon, c'est une abominable banalité, Mais quelle que soit l'émotion que vous éprouvez, vous écoutez à peu près n'importe quelle pièce de Bach, je veux dire une cantate ou une pièce instrumentale, et la structure formelle, en même temps la fantaisie, le mariage parfait des deux, ça, voilà, c'est la perfection. En même temps, c'est le père de toute la musique classique. Je dis pas que ce qui est avant Bach ne m'intéresse pas, mais enfin, il y a une espèce de perfection absolue. Et si je devais partir sur une île déserte avec un seul compositeur, c'est clairement Jean-Sébastien Bach que j'emmènerai avec moi.
Alors, votre toute dernière escale, ce sera à Sydney. Pour parler de Sydney, vous avez choisi cette musique. C'était la courante de la deuxième suite pour violoncelle de Bach par Peter Whispelway. Donc cette musique que vous avez choisie pour parler de Sydney, quel est le rapport ?
Il n'y en a aucun, bien entendu, c'est le charme de l'exercice. La beauté de cette musique qui fait, j'avais envie de dire des vagues, enfin c'est une comparaison très banale, mais qui monte, voilà, ça évoque, moi ça m'évoque aussi la mer et Sydney, parce que... Sydney, c'est une ville extrêmement dynamique, mais qui est surtout sur ce site absolument incroyable de la baie de Sydney, où les gens vont au travail non pas en métro, mais en bateau, ce qui est quand même un très grand privilège. Il y a comme ça quelques villes dans le monde qui ont des sites parfaits et qui sont développés autour d'un port en plein centre dans la ville. C'est le cas de Sydney, bien sûr, mais ça me fait aussi penser à Vancouver, au Canada, qui est également une ville magnifique. New York, bien sûr, et puis Marseille, qui est aussi, sur le même principe, un site urbain exceptionnel.
Ce qui est vrai, vous parliez tout à l'heure des longues distances pour atteindre ces villes. Moi, je suis allé une fois dans ma vie à Sydney, et ça m'a vraiment frappé que c'est après Singapour, on fait une escale à Singapour, et puis il y a 7 heures encore pour atteindre Sydney. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on survole la mer pendant 2 heures, et puis pendant 5 heures, on survole l'Australie, rien du tout en dessous. C'est-à-dire qu'on regarde par le hublot, on ne voit rien pendant 5 heures. Donc c'est long, 5 heures en avion, et tout d'un coup, Sydney émerge des brumes, on atterrit. Mais on a l'impression, effectivement, quand on a traversé tout ça et quand on a vu ça, que c'est très loin du reste du monde. On comprend mieux le fait que les gens se sentent un peu isolés, qu'ils ont besoin de partir. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de ces communautés ?
En tout cas, Sydney, c'était aussi un clin d'œil à mon premier roman, puisque Ce qu'il advint du sauvage blanc raconte une histoire qui se passe en Australie. Et effectivement, Sydney ou Perth sont des grandes villes qui sont coincées entre la mer et le désert. Et effectivement, les habitants de ces villes sont par nature très ouverts au reste du monde. Hein. Ce sont des ports et ça influe la culture. Et là encore, cette remarque vaut pour Marseille.
Et Marseille, vous avez l'air de connaître, vous y allez souvent ?
J'ai grandi à Aix-en-Provence, donc Marseille, c'est à côté. Et j'ai découvert, mais assez tard, parce que quand on est avec soi, on est, a priori, on n'aime pas Marseille. J'ai découvert un peu plus tard, en m'étant fait ma propre idée, que Marseille, c'est la plus belle ville de France. Alors, comme personne ne le dit comme ça, j'en profite. Il y a ce site exceptionnel, il y a des monuments magnifiques et puis une ambiance très agréable.
Qui a beaucoup changé, effectivement. J'étais il y a un mois dans le Mussem. C'est une ville qui a énormément changé depuis quelques années.
Et évidemment, c'est une ville pauvre. Donc, les habitants des grandes villes riches comme Bordeaux, Strasbourg ou Paris regardent ça avec dédain. Mais ça a une vitalité extraordinaire. Le soleil, il y a toujours du vent, donc il n'y a pas de pollution. Voilà quoi. Il y a un dynamisme, une joie de vivre à Marseille qu'on rencontre pas beaucoup ailleurs en métropole.
Alors, pour reprendre le questionnaire, votre plus mauvais souvenir de voyage, c'est la base Dumont d'Urville en Antarctique. Pourquoi ?
Oui,
on nous en parle souvent dans cette émission d'ailleurs.
J'ai eu le privilège d'aller sur la base du Mont d'Urville en Antarctique. C'est un très beau voyage puisque vous prenez un bateau qui va dans la glace. Donc lorsque la glace longe la coque du bateau, ça fait à peu près le bruit d'une boîte de conserve qu'on est en train d'ouvrir. Mais vous êtes dans la boîte de conserve. En fait, ça ne s'ouvre pas, je vous rassure, mais c'est juste très impressionnant la première fois qu'on entend ce bruit de la glace sur la coque en métal. Ça vous empêche de dormir. Et simplement après, on arrive en Antarctique. Et en fait, la base, elle est sur une petite île, toute petite, qui est à côté du continent, et vous ne pouvez pas en sortir, pour des raisons notamment de sécurité. Et donc, vous tournez en rond dans cette île, le continent est là, devant vous, immense, et vous tournez en rond entre le bâtiment où vous mangez, le bâtiment où vous dormez, la salle de sport, et les quelques espaces libres sont occupés par des oiseaux. Et on n'a pas le droit d'aller embêter les oiseaux, ce qui est normal, ils étaient là avant nous. Donc l'être humain est confiné sur un espace minuscule, alors que c'est un continent totalement vierge. Il y a un côté absurde, et en même temps extrêmement frustrant d'être là-dedans. Et en plus, j'ai découvert à cette occasion les nuits où le soleil ne se couche pas, et donc je n'arrivais pas à dormir, donc ça faisait beaucoup.
Alors une découverte récente, pour en faire dans le même genre, c'est le Groenland. Vous étiez quand et pour quelles raisons ?
Pour le plaisir, j'ai eu l'occasion et le bonheur de faire deux grands treks au Groenland sur la côte est. Alors là aussi, c'est des paysages incroyables, c'est des glaciers. Il ne fait pas si froid que ça, le Groenland en été. Il fait frais, mais enfin...
Attends, qu'est-ce que ça fait frais, ces gens, zéro degré ?
Non, il fait entre 5 et 10 degrés la journée. On a eu l'occasion une fois de pique-niquer torse nu. On a assez vite remis les chemises, mais enfin, pendant un quart d'heure, on était torse nu en train de casser la croûte. Et voilà, on part en autonomie avec un sac de 25 kilos, on dort sous la tente, et comme ça permet d'aller dans des endroits incroyables où personne ne va. Et c'est vraiment des moments de très grand bonheur. Quoi.
Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ?
L'effort physique. Savoir qu'on est encore capable, si je puis dire, de faire ça. La première fois, j'avais très très peur. Je vais être le boulet dans le groupe et puis ils vont me haïr parce que je les ralentis. Puis finalement, non, ça s'est bien passé. Et puis l'idée qu'on va à des endroits où les autres ne vont pas, puisque tous les voyages que vous voyez sont organisés pour éviter de porter. Et donc, du coup, vous êtes limité à un jour ou deux. Et si vous choisissez d'être écrasé sous un sac qui, le premier jour, fait 28 kilos, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, vous avancez un peu moins vite, mais vous allez beaucoup plus loin. Et donc, vous avez le sentiment d'un privilège absolu qui est de voir des paysages que les autres ne verront pas. Alors, je sais que c'est ballot, parce que si ça se trouve, les paysages que les autres vont voir sont aussi beaux. Mais le simple fait d'être un endroit qui vous a demandé un tel effort pour y aller, et autant de temps, leur donne par nature une valeur particulière.
C'est un extrait donc de l'ouverture des Hébrides de Mendelssohn par le Gewandhaus Orchestra et sous la direction de Ricardo Chailly. C'est pour parler de notre dernière destination Sydney et de votre livre aux trois couronnes, François Garde. Comment est-ce que vous avez écrit ce livre? Parce que c'est une aventure sur plusieurs continents et sur plusieurs temps. Et vous savez où ça va mener quand vous écrivez le départ ou pas?
Non, pas du tout. J'écris le livre exactement comme il se présente, c'est-à-dire au début, il y a un manuscrit, enfin, il y a un texte de trois pages qui fait toute l'énigme. Et ensuite, j'ai posé mon stylo, je dis, bon, et maintenant, je fais quoi avec ça? Et donc, j'ai commencé
c'est
à raconter
l'impression qu'on
l'histoire.
A, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, vous avez l'air pas de naviguer à vue, mais vous avez l'air d'inventer les choses au fur et à mesure.
Exactement, et donc, les personnages sont apparus les uns après les autres, les paysages et l'île imaginaire dans laquelle se noue l'intrigue, tout ça, je ne savais pas que ça existait avant de l'écrire, et donc, c'est la force, si je puis dire, du récit qui amène l'intrigue à se nouer peu à peu, les personnages à exister, et tout ça finit par prendre sens et l'intrigue par se refermer, si je puis dire.
Bah, c'est comme ce qu'il advint du sauvage blanc. Vous partez d'un seul élément et puis après, vous laissez libre cours à votre imagination.
C'est ça. Je ne travaille pas du tout avec un synopsis ou un plan général, puisque moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, si je sais au départ où je vais, ça ne m'intéresse pas. Pour y aller, il faut que je l'écrive. J'ai rencontré dans le très sympathique festival du premier roman de Chambéry il y a 15 jours un auteur autrichien qui disait « J'ai la scène de départ, j'ai la phrase de fin et je tends un pont entre les deux ». C'est très beau, mais je suis absolument incapable de travailler comme ça.
Est-ce que vous lisez beaucoup vous-même pendant vos voyages ?
Oui, je lis pas mal. Je lis surtout des biographies, de la littérature étrangère. Et puis les grands classiques.
Par exemple, littérature étrangère.
Oh, donnez tout. Du slovène, du guatémaltèque, du russe, du sud-africain, de l'islandais. Voilà, c'est une manière aussi de voyager. Plutôt que de lire un guide de voyage, lire un roman contemporain ou ancien qui se déroule dans tel ou tel pays vous donne une infusion et un concentré de la culture de ce pays. C'est le meilleur moyen de voyager.
En tout cas, grâce à vos mots, vous avez donné des petits concentrés de différents paysages que vous avez vus dans votre vie. Merci beaucoup, François Garde. Je rappelle pour trois couronnes votre dernier roman, mais aussi ce qu'il advint du sauvage blanc, tous les deux parus chez Gallimard. Et merci de nous avoir fait voyager ce soir.
Merci.
Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes fidèles, comme toujours, Fabien Florin, notre réalisateur, fidèle parmi les fidèles, Maud Nori, à qui vous allez pouvoir envoyer vos lettres enflammées sur le site de l'émission francemusique.fr, notre assistante de production, et à la technique ce soir, Pascal Bénard. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons surtout vos revoirs. Voir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Et vous vous demandez très certainement ce qu'il advint de notre propre sauvage blanc, c'est Laurent Valero. Eh bien, il nous attend pour des nuits noires de monde, je pense. Laurent, vous êtes là ?